Bonjour à vous tous, bienvenue. On poursuit notre visite à nos voisins en cette semaine de l'Europe. Après l'Italie, la Belgique, la Suède et l'Espagne, nous sommes en Allemagne aujourd'hui à Sarrebruck pour rencontrer un passionné de chansons françaises qui anime une émission de radio pour faire partager ses coups de cœur. Ensuite, on vit un printemps proustien en Eure-et-Loire pour les 100 ans du Goncourt d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et enfin, on fait le marché pour la fête internationale des marchés avec France Bleu. Mais commençons par l'actu de ce vendredi 10 mai. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Ternier, bonjour à tous.
Et on commence en Afrique où deux Français avaient disparu.
Oui, l'armée française vient de libérer 4 otages, dont les deux Français enlevés au Bénin. Ils avaient disparu dans un parc national du Bénin. On avait retrouvé le corps de leur guide il y a quelques jours. Outre les deux Français, il y avait également une Américaine et une Sud-Coréenne. Les 4 otages ont été libérés. Mais cette opération a coûté la vie à 2 militaires français, donc tués dans cette opération pour libérer les otages.
On s'arrête dans des EHPAD ce midi avec ceux qui essaient d'alerter sur la situation des personnels et des résidents.
Un médecin qui menace de démissionner et une universitaire qui sort un livre sur le sujet.
10 mai, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions.
Emmanuel Macron a présidé une cérémonie ce matin au jardin du Luxembourg à Paris, Nicolas Ballu.
Oui, mais lutter contre l'esclavage, ce n'est pas qu'un devoir de mémoire. L'esclavage, c'est très actuel, même en France.
On passera aussi par Bordeaux ce midi.
Nous allons découvrir l'histoire de cet homme qui vit avec une greffe de rein depuis 50 ans, un rein donné par sa mère.
Il revient aujourd'hui à l'hôpital parisien où a eu lieu la greffe à l'invitation des médecins. Sa maman de 97 ans sera là aussi.
Bienvenue à tous dans Une heure en France jusqu'à 14h.
Une heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farouf sur France Bleu.
Et avant de voir l'actu du jour, voyons l'actualité du ciel avec les Saintes Glaces demain, dimanche et lundi. Saint-Servais, Saint-Pancras et Saint-Mamère qui, selon la croyance populaire, annoncent le dernier coup de froid de la saison.
Oui, sauf qu'il est déjà passé ces derniers jours, ce coup de froid. Enfin, si vous n'avez pas encore planté les tomates et les courgettes au jardin, dans le doute, attendez mardi prochain.
Ah ben là, j'attends, oui, parce que j'ai des tomates dans ma véranda qui sont assez hautes. Je pense que la semaine prochaine, ça va être bon.
Dans l'ensemble, les premiers semis que je fais, je regarde à la lune et puis aux Saintes Glaces. De toute façon, il est certain que si vous semez des haricots avant les Saintes Glaces, il n'y a pas grand chance qu'ils lèvent. Trop froid.
C'est vrai qu'il faut y faire attention. Il y a quand même une réalité. La preuve, puisqu'on a bien vu qu'il y a une semaine, à quelques jours des Saintes Glaces, un certain nombre de pousses, notamment les pommes de terre, ont gelé. Quoi.
On a été un peu surpris parce que depuis quelques années, les Saintes Glaces, on ne les a pas beaucoup vues. Il n'y avait pas eu de gelée ni quoi que ce soit. Donc, on continuait un peu sur la lancée. Et effectivement, on s'est fait avoir. Quoi.
Donc à partir de lundi, mardi,
c'est lundi, bon. Mardi, c'est bon. On peut tout semer. Ah ben jusqu'au mois de décembre, on est tranquille.
Georges, Michel, Guy et Marcel, rencontrés par Lucie Thuillet à Saint-Lô, dans la Manche.
On entend souvent des personnels d'EHPAD dénoncer leurs conditions de travail avec des répercussions sur les résidents des maisons de retraite.
Cette fois, c'est un médecin coordinateur d'EHPAD qui lance un ultimatum pour réclamer des moyens. Si dans 2 mois, on n'a recruté personne, il démissionne. Nous sommes à la maison de retraite de Notre-Dame-des-Monts, sur la côte vendéenne. Et le médecin s'appelle Marcelin Meunier.
Mon ultimatum, c'est il faut plus de personnel. Ce sont des gens qui ont beaucoup de pudeur, mais que je vois tous les jours pleurer en ce moment. Pleurer parce qu'ils n'ont pas de vie personnelle, familiale, parce qu'ils sont épuisés, parce que du jour au lendemain, ils s'aperçoivent que le congé du lendemain a sauté, qu'il faut qu'ils reviennent alors qu'ils sont épuisés. Ça n'est plus possible. Je pense qu'il y a un risque de catastrophe humaine. Moi, je me suis engagé et j'ai mis mon poste dans la balance. En tant que gériatre, je ne peux plus supporter ce fonctionnement de l'établissement. Je passe pour quelqu'un d'excessif, qui ne voit pas les choses clairement. Et autour de moi, il y a beaucoup de déni. Les instances, la municipalité, tous nos interlocuteurs, qui sont divers et dont aucun n'est responsable. Cet ultimatum, c'est un ultimatum de désespoir. J'ai quand même beaucoup, beaucoup de confrères, médecins coordinateurs qui m'ont dit « oui, vas-y, fonce ». C'est ma seule et dernière façon d'essayer de faire remuer les choses.
Le médecin coordinateur d'EHPAD qui menace de démissionner. Alors qu'un livre va sortir la semaine prochaine, « Un été en EHPAD, situation critique ».
Écrit par une enseignante de Belfort qui a observé pendant des années avant de dénoncer ce qu'elle appelle une maltraitance institutionnelle.
La dignité de la personne humaine est quand même mise à mal. Qu'est-ce que c'est que cette société qui ne veut pas regarder ces personnes âgées dépendantes que l'on doit prendre en charge ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire prise en charge ? Ce sont des poids qu'on doit traîner ? Mais qu'est-ce qui reste de notre humanité ? Déjà, quand on n'est pas blanc, homme, de 30 à 40 ans, employable, on a du mal à trouver sa place dans la société. Mais alors, quand on est une personne dépendante, c'est quand même très, très compliqué. Et je crois que là, ça interroge absolument l'ensemble de la société. On ne peut pas réduire une personne âgée à sa dépendance. Elle a eu une vie antérieure, et c'est ce que j'ai aussi voulu montrer. La vie, elle était là avant, et puis elle peut encore être là. C'est un univers qui n'est pas gai, mais dans lequel on peut rire. C'est un lieu de vie.
Rosa Lou, l'universitaire de Belfort, qui a écrit Un été en EHPAD, qui sort le 14 mai avec Wassila Guitoun.
Bruno Le Maire se dit toujours convaincu de la pertinence de la privatisation d'Aéroports de Paris.
Le ministre de l'économie estime qu'il faudra un peu de patience, et pour cause, la procédure de référendum d'initiative partagée est en marche. Le RIP prévu dans la Constitution et qui n'a jamais jusqu'à présent été utilisé. ADP a plongé de plus de 9% en bourse après la décision sur le référendum.
Près des trois quarts des Français refuse qu'une loi d'exception soit appliquée pour la reconstruction de Notre-Dame. Et plus de la moitié souhaite que la flèche de la cathédrale soit reconstruite à l'identique.
C'est ce qui ressort du sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro, alors que l'Assemblée nationale se penche depuis ce matin au chevet de Notre-Dame à propos de la gestion des dons qui ont afflué et de la conduite de travaux qui fait l'objet de débats passionnés.
Nous sommes le 10 mai et depuis une quinzaine d'années, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions.
La statue de Modeste Testas, une esclave achetée par des Bordelais au XVIIIe siècle, va être inaugurée ce soir quai Louis XVIII. C'était l'une des dernières promesses de l'ancien maire Alain Juppé. Les Bordelais et touristes rencontrés par Marie-Jeanne Delpaule sont presque tous d'accord avec l'initiative.
Alors ça me semble important, voire nécessaire, pour les gens qui ne sont pas de Bordeaux, qui viennent visiter Bordeaux, et pour nous tous, par rapport à cette page de l'histoire.
Ce qui s'est passé, c'est passé. C'est pas la peine de remuer le passé pour avancer dans la vie. Vivre avec le passé, ça sert à rien.
Une petite explication au bas de la rue pour donner des informations. Oui, je trouve ça très intéressant pour l'histoire de la ville et pour rendre justice.
Ça existait, il ne faut pas le renier, mais il faut expliquer, surtout à nos nouvelles générations, ce qui s'est passé dans telle ville. Je veux dire, aussi bien à Bordeaux qu'à La Rochelle, qu'à Nantes, qu'au Havre, tous ces ports ont été des ports négriers. Il faut le savoir. Je pense que c'est important pour l'histoire.
Emmanuel Macron a présidé une cérémonie sur cette journée nationale ce matin à Paris. François Hollande avait enclenché la création de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. La France regarde son histoire en face, Nicolas Ballu.
Oui, au moins tant qu'il s'agit d'histoire et de mémoire. Ça fait quand même 20 ans, 18 ans exactement, que la loi Taubira reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 15 ans maintenant qu'on commémore l'abolition de l'esclavage. Et puis Emmanuel Macron vient d'annoncer la création d'une Fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est important parce que l'esclavage est bien entendu lié au préjugé de couleur et la France s'est en partie développée là-dessus. Il y a bien également venu des États-Unis un début de débat sur le thème de la réparation. Mais il y a quelques jours, la Cour de cassation a débouté des descendants d'esclaves qui demandaient réparation à l'État français.
Ouais. Maintenant, il y a des formes nouvelles d'esclavage.
Oh oui, et souvent liées aux migrants, aux jeunes en difficulté. Alors, ce sont des esclaves domestiques, esclaves sexuels. Voilà, il s'agit de mendicité forcée, de travail dans les ateliers clandestins. Ce ne sont que des exemples. Il serait 20 millions d'esclaves dans le monde, des centaines de milliers en Europe, selon l'Observatoire international du travail, sans compter ceux qui sont exploités et asservis à notre porte, comme en Libye.
Et vous avez un chiffre, Nicolas, par exemple, pour la France?
Oui, estimation de 130 000 personnes. La prise de conscience est récente. En 2014, la France s'était dotée d'un plan de lutte contre la traite sur 3 ans. Elle ne l'a toujours pas renouvelé.
Merci, Nicolas Ballu.
Et on revient maintenant sur certains infos arrivées juste avant le début d'une heure en France à propos des otages au Bénin.
Les deux Français enlevés au Bénin sont à nouveau libres. Ils ont été retrouvés de l'autre côté de la frontière, au Burkina Faso, et récupérés cette nuit au cours d'une opération militaire qui a malheureusement coûté la vie à 2 officiers. En revanche, en plus des 2 Français qui vont pouvoir rentrer, 2 autres otages ont été libérés par l'armée française, une américaine et une sud-coréenne.
13h09 sur France Bleu, la suite du Nord en France, ce sera dans une cantine scolaire où il y a beaucoup de bruit et on essaie de faire baisser les décibels. Mais avant, on veut entendre l'histoire de cet homme greffé d'un rein il y a 50 ans. La donneuse était sa mère. C'est quasiment un record médical mondial. Jean-Pierre Saliège a été opéré le 2 décembre 1968, un temps où l'espérance de survie était mince.
L'hôpital Foch à Suresnes, en région parisienne, a décidé de lui organiser aujourd'hui une cérémonie. Et Jean-Pierre, 70 ans, n'y viendra pas seul. Il sera accompagné de sa maman, âgée de 97 ans.
J'étais le 65e. La différence, c'est que moi, j'étais un essai. Parce que comme j'étais mourant, il me restait 15 à 17 jours à vivre environ, le professeur Cuss a dit à ma mère, perdu pour perdu, je vais faire une expérience. C'est-à-dire que au lieu que je sois dialysé avec des appareils pour épurer le sang, il m'a dit, je vais lui enlever ses deux reins et je vais directement lui greffer le vôtre. Et c'est votre rein qui va l'épurer. Dans la salle d'opération, le jour du 2 décembre, on a descendu maman. Il y avait un champ, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un grand drap qui séparait les deux tables d'opération. Là, il y avait là une quarantaine de médecins ou chirurgiens, tous les mains en l'air, avec des gants blancs, des masques, des blouses, des bottes. Et là, je me suis dit, bon, mon petit gars, là, tu y passes, là. Maman, c'est une double maman. Elle m'a mis au monde en 48 et puis une deuxième fois en 68. Ma mère m'a donné deux fois la vie. Donc ça mérite des remerciements. Tous les ans, le jour de la greffe, je lui offre un bouquet de fleurs. Une très belle histoire.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci Jean-Pierre Saliège de nous l'avoir raconté. Ce témoignage qui nous a touchés, voire impressionnés, Frédéric.
Oui, effectivement. On se plaint tous à un moment ou à un autre du bruit autour de nous, mais il y a des lieux bruyants par excellence, notamment les cantines scolaires.
Voilà pourquoi on veut souligner l'initiative de la ville de Limoges qui a installé un capteur en forme d'immense oreille dans une école de la ville. Une oreille qui change de couleur quand on parle trop fort, William Giraud.
Chaque midi, l'ambiance au réfectoire, c'est ça. Pour mesurer le bruit, un micro a été installé au plafond. Fabienne Ducharlet est la référente périscolaire du secteur.
Actuellement, nous sommes à 76 décibels. Donc l'oreille, comme vous pouvez le constater, est verte. À 79, elle passera toute seule dans le orange. Aux environs de 81, elle est déjà dans le rouge. Donc chacun adapte et fait en conséquence pour diminuer ce volume sonore.
77 décibels, 78, 79, l'oreille passe dans le rouge. Tous les enfants arrêtent de parler.
Et on regarde, on est en rouge. Regardez l'oreille.
Ah bah alors là, vous venez de voir que l'oreille vient d'atteindre les 79 décibels et que donc elle a changé de couleur. Vous voyez déjà, diminution.
Les surveillants ont aussi mis en place des jeux pour inciter les enfants à baisser le volume.
Attention, le totem rouge va se déplacer.
Alors c'est un jeu qu'on a mis en place. La table qui a le totem rouge, c'est la table qui fait le plus de bruit. Et le totem vert, c'est la table qui est la plus sage.
Il y a aussi des bons points distribués. Désiré, élève de CE2, trouve tout ça très bien.
C'est un smiley vert qui nous dit qu'on parle pas trop fort.
Tu trouvais qu'avant c'était un peu trop fort ou pas?
Oui, ça me donnait mal à la tête.
Après 3 mois d'expérimentation, le bruit a baissé en moyenne de 3 décibels. Selon le premier bilan effectué par les services municipaux.
William Giraud à l'école Léon Berland de Limoges.
En football, les Anglais ne sont pas prêts de sortir de l'Europe.
Chelsea et Arsenal vont jouer la finale de la Ligue Europa et Liverpool-Tottenham la finale. L'Angleterre du football est en grande forme en plein Brexit politique.
4 clubs, c'est ça, 4 clubs anglais.
Oui, c'est ça, vous avez bien noté. Oui.
Le match du vendredi soir de Ligue 1, c'est Saint-Etienne-Montpellier.
La sanction du jour, c'est pour le Brésilien Neymar, suspendu 3 matchs. Pour avoir bousculé un supporter qui lui faisait une remarque après la défaite des Parisiens en finale de la Coupe de France face à Rennes.
Nous allons en Allemagne dans un instant, en cette semaine de l'Europe, à la rencontre de nos voisins. Et on a rendez-vous avec un spécialiste de la chanson française à Sarrebruck.
Vous savez ce qui amuse les Allemands depuis ce matin? Un pigeon a été flashé par un radar automatique.
Je veux dire que c'est drôle.
Sa photo est publiée sur la page Facebook de la ville de Bolscholt. C'est à la frontière des Pays-Bas. Elle a été reprise un peu partout dans le monde. Elle est en noir et blanc, évidemment. C'est une photo de radar, elle est sur francebleu.fr.
Mais Denis, est-ce que c'était un gros excès de vitesse?
45 km/h au lieu de 30. Ah. C'est une amende à 25 euros.
Assis sur le bord de la fontaine, je fais de la musique pour les pigeons qui jouent à picorer les graines, que leur jette un petit enfant blond, le nez en l'air, les yeux dans le ciel, le cœur tout à cette tourterelle. Il vit de son sac de millet, dans les roucoulements satisfaits. Toi l'enfant blond, roi des pigeons, je voudrais que tu viennes dans ma chanson, pour que t'y mettes ta gentillesse. Tu sais, le monde en a besoin. Regarde autour de nous, ça va pas bien. Les gens font peur à nos ramiers et les dérangent sans s'excuser.
Les pigeons d'Hervé Christiani, ça faisait longtemps. Christiani qui avait connu le succès avec Il est libre au max, évidemment.
Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
C'est vrai ?
Oui. On retourne en Allemagne ce midi après l'excès de vitesse de ce fameux pigeon. Nous serons avec un spécialiste de la chanson française avant de fêter les 100 ans du prix Goncourt de Marcel Proust.
On va faire le marché aussi, c'est la fête des marchés avec France Bleu. Voilà la météo du jour.
FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.